France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Voici Concordance des temps, proposé par Jean-Noël Jeannenet en direct de la Halle au Grain en public, au rendez-vous de l'histoire de Blois en octobre 2008. Une émission aux multiples rendez-vous, à vrai dire, de Sarkozy à Ronsard, de Bronislav Geremek à Jean-Pierre Vernant et Jacques de Lacretel. Et pour deux livres, L'Europe frigide, réflexion sur un projet inachevé, chez André Versailles, 2008, d'Elie Barnavi, et La révolution européenne de Christophe Pomian, Perrin, 2008 également. Le temps de l'humanisme concorde-t-il au temps présent? L'humanisme peut-il être intemporel? Le ton badin cache la question redoutable de la place que tient notre Occident dans le monde mondialisé.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Athènes, c'est l'étincelle d'enthousiasme qui nous entraîne à raisonner sur tout. La Rome antique, c'est le besoin d'appartenir à une nation organisée et l'acceptation de ses lois. Si vous voulez, la part civique de notre conscience.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannenet. Bonjour. Comme chaque année, j'ai le plaisir de vous parler en direct de Blois, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire, qui fêtent avec un très large public leur 11e anniversaire et que France Culture a rejoint pour 3 journées de décentralisation. Le thème du festival est cette année « Les Européens ». Et j'ai profité de la présence ici d'Elie Barnavi, qui a prononcé hier sur ce sujet, dans le grand hémicycle de la Halle au Grain, une conférence importante pour le convier à notre micro. Il a été naguère ambassadeur d'Israël en France. Il est professeur émérite d'histoire de l'Occident moderne à l'Université de Tel Aviv et conseiller scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Et il est l'auteur d'un livre tout récent qui n'a pas hésité à intituler « L'Europe frigide ». Je ne suis pas sûr, à vrai dire, j'aurais choisi le même adjectif, mais l'essentiel est que nous entourions celle-ci, je parle de l'Europe, au moins de la chaleur communicative de l'une des plus ardentes controverses qui soit née à son propos ces derniers temps, et j'ai choisi de revenir sur celle qui concerne les sources de l'Europe. Nicolas Sarkozy, président de la République, dans un discours désormais fameux prononcé à Saint-Jean-de-Latran, à Rome, en décembre 2007, tout en appelant curieusement à une laïcité positive, a parlé des racines essentiellement chrétiennes de l'Europe. Essentiellement chrétienne, ce n'est pas l'adjectif, bien sûr, qui est discutable, mais l'adverbe qui a paru à beaucoup de Français rabaisser les autres sources auxquelles notre continent s'est abreuvé au long des siècles, en particulier l'Antiquité gréco-romaine. C'est donc de l'influence de celle-ci que nous allons traiter principalement avec Elie Barnavi, en braquant l'attention sur le temps de l'humanisme, c'est-à-dire les 15e et 16e siècles, dont il est un spécialiste reconnu. Et d'abord, un propos de Bronislav Geremek.
Nous sommes d'avis que l'Union européenne est un ensemble laïque. Mais il y a aussi le fait d'histoire et des cultures, que de l'identité européenne est fondée sur les valeurs chrétiennes, sur la grande expérience communautaire qui était la chrétienté médiévale, je l'ai dit en historien, à côté d'une autre expérience communautaire de la République des lettres et des idées de lumière. Ainsi donc, s'il y avait dans le préambule de future constitution une référence qui dirait quel est l'héritage culturel de l'Europe, je pense pense qu'en d'aucune façon, ça ne changerait pas le caractère laïque de l'Union européenne. Et nous avons aussi l'exemple de la Constitution polonaise, où il n'y a pas de déclaration sur les caractères religieux de la Pologne, mais on dit que les valeurs principales qui définissent les comportements politiques, les uns tirent de l'enseignement de Dieu et les autres d'autres sources. Ce qui veut dire qu'il y a une tradition humaniste qui est considérée comme le fond même de la civilisation européenne.
Élie Barnavi, bonjour.
Bonjour.
Outre l'intérêt des propos de Guéremec que nous allons citer, j'ai souhaité vous faire entendre cet archive parce que votre livre, L'Europe frigide, est dédié à sa mémoire. Vous dites « Citoyen polonais, grand européen, excellent ami ». C'est en effet tué sur la route en juillet dernier.
Oui, une mort absurde d'un très grand européen, et d'un homme de cœur. C'est un homme pour lequel j'avais une très grande affection et cette mort idiote sur une route polonaise m'a profondément affecté.
Il était à la fois une personnalité majeure de Solidarność dans les grands combats. Il a été
c'était un grand combattant pour la liberté. C'était un historien tout à fait estimable, mais médiéviste.
Il avait travaillé avec Georges Duby sur la question des pauvres au Moyen-Âge.
Tout à fait. Et ça a été un grand parlementaire européen. C'est l'homme qui aurait dû être président du Parlement européen si des jeux de couloir parlementaires assez médiocres ne l'avaient pas privé.
Il a été ministre des Affaires étrangères aussi.
Des Affaires étrangères de la Pologne indépendante, oui.
Alors voyons ce qu'il nous dit. Il nous ramène à la querelle si intéressante, si importante, civiquement, intellectuellement, historiquement, qui est née au moment du traité constitutionnel qui a finalement été rejeté par la France et les Pays-Bas. Fallait-il ou non inscrire le terme de source chrétienne dans le préambule? Sa position est intéressante. Elle n'est pas très loin de la vôtre, si j'ai bien compris.
Il est historien. Et je pense que quand on est historien, la moindre des choses, c'est de respecter le passé. Et c'est pour cela qu'on se rejoint. Guéremec était un peu comme moi, c'est-à-dire un juif laïque, agnostique, et un historien de l'Occident. Et donc, lorsque l'on travaille un peu cette matière, on ne peut pas constater que la première configuration de l'Europe a été chrétienne, que l'on veuille ou pas. Et c'est une évidence qui vous saute aux yeux. C'est la position de Le Goff, c'est la position de Marc Bloch. Tout le monde comprenait cela.
C'est un peu guère et discuté. Ce n'est pas vraiment là que le débat s'affirme. Et ce qu'il dit sur la constitution polonaise, qui est moins connue, est intéressant, puisqu'il dit on parle des sources chrétiennes, mais aussi des autres.
Oui.
Il n'y a pas une hiérarchie.
Alors le problème n'est pas tellement d'avoir dit ou non dans la Constitution. Je pense qu'il fallait mentionner les racines. J'ai un problème avec ce mot, voyez-vous. Les civilisations ne sont pas des radis et les individus non plus.
Pourquoi je parlais des sources en passant de l'ordre du tellurique à l'ordre de l'aquatique.
C'est socle, vous voyez, si on comprend la civilisation comme... J'ai tenté de le dire hier, comme une sédimentation, comme un millefeuille, n'est-ce pas, où chaque couche se superpose aux couches précédentes et finit par donner la configuration particulière d'une civilisation. Alors cette couche-là, la couche de l'Église, la couche chrétienne, est extrêmement importante. L'Europe, la première configuration de l'Europe a été l'Église. Je ne parle pas de foi, je parle d'institution, je parle d'esprit, je parle de la manière dont l'Église s'est coulée dans le moule administratif, mental, politique de l'Empire romain.
Il est juste, Élie Barnavi, de faire entendre un instant la voix de notre président de la République, puisque je l'ai évoqué, ça me paraît juste et bienvenu. Et vous allez voir qu'il fait référence dans cet extrait, on aurait pu en trouver d'autres, à l'héritage architectural aussi de la chrétienté. Entendons sa voix, il s'exprime à la Convention pour l'Europe de l'UMP, le parti dont il était naguère le président et sur lequel il continue d'avoir quelque influence, le 30 janvier 2008.
Quand on a peur de défendre ses racines, on n'a pas la force de défendre ses convictions. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on met en cause la laïcité. Il suffit de survoler la France pour voir ce long manteau d'église et quand même dire qu'en Europe, il y a des racines chrétiennes. C'est simplement faire preuve de bon sens, refuser de le reconnaître, c'est tourner le dos à la réalité historique.
Pour être franc, on a un peu l'impression qu'il peint un diable sur le mur, si je vous cette expression, pour le transpercer, parce que personne ne nie la part des chrétiennes. Et c'est ce qui avait surpris, disons, au Latran, en décembre de 2007, c'est qu'il avait parlé des racines essentiellement chrétienne, comme je le disais en commençant. C'est-à-dire qu'il paraissait faire une hiérarchie entre celle-ci et l'influence, par exemple, de l'antiquité gréco-latine, sur laquelle, par exemple, Valérie insistait tellement.
Alors, le problème, ce n'est pas tellement qu'on reconnaisse l'existence de ce socle chrétien, ça, tout le monde le connaît. C'est d'avoir refusé de le mentionner dans le préambule du traité européen. Là, je crois qu'il y a eu un immense problème. Et le deuxième problème, celui-là, c'est celui du président de la République, c'est la hiérarchisation qu'il a essayé de faire. C'est-à-dire que dans une perspective historienne, Et laïque, oui, c'est-à-dire neutre par rapport aux valeurs religieuses. La reconnaissance de ce socle chrétien veut dire aussi reconnaissance de la manière dont il a été sécularisé par les Lumières et dont il a été intériorisé. On peut dire que les valeurs sur lesquelles nous vivons, les valeurs européennes, sont des valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes, si l'on veut, mais qui sont passées par le prisme des Lumières, donc qui ont été sécularisées. Et ce qui a gêné, me semble-t-il, dans la position du président de la République, c'est pas tellement d'avoir rappelé cette évidence qu'il y a des racines, il y a un socle chrétien.
C'est-à-dire qu'il faisait jour à midi.
Mais c'est d'avoir oublié l'autre versant. C'est-à-dire, là, ce qui a choqué, disons-le net, c'est la comparaison entre le curé et l'instituteur.
Rappelez-nous ce qu'il a dit.
Et là, dans ce couple de l'instituteur et du curé, c'est lui qui avait une espèce de droit de préséance, c'est lui qui était, c'est une paraphrase, je ne me souviens pas exactement de ces mots, mais me semble-t-il, c'est lui qui véhiculait les véritables valeurs, c'était le curé, c'était pas l'instituteur. C'est ça qui a choqué. C'est-à-dire que c'est en fait dire qu'il n'est de valeur que religieuse, et donc nous dire à quelques-uns d'entre nous qu'ils n'avons pas de Dieu, dont les valeurs sont autres, que nous n'avons pas, en fait, que nous sommes des asexués moraux, en quelque sorte.
C'est effrayant.
Et ça, c'est
effrayant.
Ça,
je ne vous voyais pas jusqu'ici, Élie Barnaby, comme un asexué moral. Et donc, si c'est comme ça qu'on vous dépeint, je suis dans le camp de ceux qui blâment cette définition.
Merci, Jean-Noël. Je n'attendais pas moins de vous.
Donc, je voudrais maintenant que nous en venions à ce qu'a été l'héritage gréco-latin, bien sûr, il y a l'après, c'est-à-dire les Lumières, toute la partie des Lumières qui s'était séparée du christianisme, seulement une partie, bien sûr, mais venons-en à l'amont, si vous voulez bien, c'est-à-dire aux Grecs et aux Latins. J'ai souhaité vous faire entendre la voix d'un autre disparu récemment, qui nous manque beaucoup, qui est Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant, éminent spécialiste de l'histoire grecque, qui a beaucoup inspiré toute une école de disciples et qui a coloré
avec sa personnalité. Grand humaniste aussi, grand humaniste et grand combattant, il faut le rappeler.
Grand résistant, bien sûr, grand résistant. Oui. Eh bien, nous allons l'entendre, c'est un extrait de Culture Matin, il est interrogé par Jean Lebrun, un des piliers, comme vous savez, de France Culture, par Jean Lebrun, le 15 octobre 1996.
La Grèce invente plus que la démocratie, la Grèce invente la politique.
Oh, elle invente le politique, même, bien plus que la politique. Le politique, c'est-à-dire que c'est dans un certain contexte historique, celui des cités, que se dégage un plan du réel, un plan de la vie collective, qui est le politique, qui n'est pas le familial, qui n'est pas non plus la nation, mais qui est le politique. C'est-à-dire le fait qu'un groupe d'hommes en vient à penser que pour qu'il y ait groupe, pour qu'il y ait communauté, il est nécessaire que le pouvoir de souveraineté, soit neutralisé, dépersonnalisé et dans une large mesure désacralisé. Ce que les Grecs expriment en disant que le pouvoir est déposé, en meso, au centre, là où personne ne peut mettre la main sur lui, dans un espèce d'espace qui n'est plus l'espace de personne et qui est par conséquent propriété de tous. Fantastique, fantastique, parce que l'image, l'humanité, c'est en général fait du pouvoir souverain, une idée que le pouvoir souverain, ou bien ce sont les dieux qui l'ont confié entre les mains d'un personnage, ou bien c'est inscrit dans une vérité révélée, ou bien ce sont des vieillards particulièrement expérimentés qui doivent le détenir dans le secret. Et là, pas du tout, il y a ça. Il n'y a vraiment cité, c'est-à-dire non seulement pour vivre, comme dirait Aristote, mais pour vivre humainement, pour vivre bien, que si d'abord il y a eu cette opération de personnalisation du pouvoir et dans une certaine mesure de désacralisation, dans une certaine mesure. Parce que le religieux grec, il est partout. Quand les magistrats prennent des décisions qui font respecter la loi, il n'y a plus que la loi qui soit, comme on dirait, roi. Le vrai souverain, c'est la loi, c'est-à-dire la volonté commune. Alors, cette loi, elle reflète un ordre qui est un ordre qui dépasse l'homme. Mais en même temps, c'est une affaire que les hommes peuvent décider en eux-mêmes, sur laquelle ils réfléchissent. Le politique devient non seulement une pratique, l'assemblée, le vote à main levée, mais ça devient un objet de réflexion.
Un objet de réflexion. L'idée que le politique n'est plus la propriété de quelques-uns, mais la propriété de tous. Il y a là une magnifique définition de ce formidable basculement que nous a apporté la Grèce. Et nous vivons encore de cet héritage.
Mais qu'ajouter à cela, Vernon avait le don de dire simplement des choses compliquées.
Vous voilà condamné à gloser un peu.
Et c'est une très grande élégance. C'est vraiment, il est allé droit à l'essentiel. Alors, si vous comparez des textes grecs classiques et la Bible, par exemple, qui est aussi un formidable livre politique, vous apercevez du fossé qu'il y a entre les deux. Dans la Bible, il y a un maître, il y a des dépositaires. Ce maître est Dieu. C'est-à-dire que la façon de considérer le politique, est éminemment morale, c'est-à-dire religieuse. La politique n'appartient pas aux hommes. Et le jugement que l'on porte sur le comportement de tel ou tel roi, et vous voyez cette théorie de roi, aucun ne trouve grâce aux yeux du Seigneur, ils sont tous mauvais.
Théorie au sens grec du terme,
cette longue suite, exactement. Eh bien, vous apercevez qu'ils sont mauvais parce qu'ils enfreignent la loi de Dieu. Rien de tel dans le modèle grec, et nous sommes en quelque sorte héritiers des deux, n'est-ce pas? Et la part grecque est essentielle parce que les Grecs, évidemment, effectivement, inventent le politique, c'est-à-dire le fait de poser la chose publique au milieu, comme le dit Vernon, mais non seulement pour que personne ne s'en empare, mais pour que l'on puisse la considérer, pour qu'on puisse réfléchir sur la politique. Et les Grecs inventent donc la science politique, en quelque sorte. Ils inventent la philosophie politique et ils inventent notre vocabulaire politique. C'est-à-dire qu'ils inventent donc ces fameuses catégories, n'est-ce pas, du pouvoir politique, monarchie, aristocratie, monarchie, aristocratie, démocratie. Et les trois formes perverties, n'est-ce pas, puisque la monarchie, c'est ainsi que la vie des hommes est faite, la monarchie va se dégrader en tyrannie, l'aristocratie en oligarchie, et la démocratie en ochlocratie, c'est-à-dire en anarchie. Et ensuite, il y aura une révolte, tout recommencera. Eh bien, ces catégories-là, nous n'en sommes jamais sortis. Et jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à ce qu'un Français, Jean Bodin, dise oui, c'est vrai, mais le principal, ce n'est pas le nombre des gouvernants. Le principal, c'est la loi, n'est-ce pas? C'est ce que dit Vernon, n'est-ce pas? Qui donne la loi? Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a tout de même une différence entre l'Angleterre et l'Arabie saoudite, bien qu'il y ait un monarque de deux côtés, n'est-ce pas?
Et bien que ce
puisqu'il
soit
cherche la loi, n'est-ce pas?
Et d'ailleurs,
mais ça les Grecs n'avaient pas compris.
Vous rappelez que le président actuel de la République est allé à Riyad pour défendre la laïcité.
J'ai noté ça avec beaucoup de plaisir, effectivement.
Vous avez des franches plaisirs.
Chanter la tolérance religieuse à Riyad, c'est une affaire intéressante. Vous savez qu'il n'y a pas en Arabie saoudite une seule église, bien qu'il y ait des dizaines de milliers de travailleurs chrétiens. Et lorsque l'on demande aux Saoudiens, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas une seule église? Est-ce que ce n'est pas un tantinet d'intolérance religieuse? Je ne dis pas du tout. C'est simplement parce que l'Arabie saoudite est tout entière considérée comme une mosquée. Imagine-toi une église dans une mosquée. Voilà.
Bien, après cette escapade
On n'est pas obligé d'être grec pour être sophiste.
Après cette escapade vers le Proche-Orient, je vous ramène, bon gré mal gré, Élie Barnavi vers la Grèce antique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un effort intellectuel pour imaginer qu'il y a eu un avant et un après l'institution de ces catégories politiques. Et c'est une manière de restituer l'importance décisive que ce progrès a eu par rapport à notre actualité, par rapport à notre vie démocratique.
Mais on se focalise sur la politique, mais on oublie que toute la pensée conceptuelle occidentale se fait dans des concepts grecs. Notre vocabulaire est grec, parfois nous ne le savons pas. Alors, ce qui est vrai pour la politique, est vrai pour la psychologie, est vrai pour la philosophie, les Grecs ont inventé aussi la philosophie, c'est-à-dire ils ont inventé la pensée autonome par rapport à toute autre forme de sentiments ou de croyances.
Désacralisation d'hiver.
Désacralisation. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas si Paul Venn avait raison, si les Grecs croyaient en leur Dieu, n'y croyaient pas, mais ça n'a aucune importance.
Vous faites allusion à un article fameux de l'autre grand livre, oui, spécialiste qui est Paul Venn. Il s'est posé dans un article la question de savoir est-ce que les Grecs croyaient en leur Dieu. Qu'est-ce qu'il répond d'ailleurs ?
Mais je n'ai pas très bien compris en fait.
Il faudra que je l'invite alors.
Je n'ai pas très bien compris parce que si j'ai bien compris, ils y croyaient, mais ce n'était pas tellement important. Et je pense que c'est tout à fait ça. Bien sûr, bon, il y a ce que Ernest Renan appelle des charmants enfantillages municipaux. C'est ça la religion des Grecs.
On a l'impression de deux univers, les humains et les dieux, qui vivent chacun selon leurs propres intérêts, qui se rencontrent par moments.
Les dieux sont comme nous, n'est-ce pas ? Ce sont des humains, l'immortalité en plus. Et donc, ils ont les mêmes passions, les mêmes faiblesses, les mêmes, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a qui sont bons ou mauvais alternativement. Ce sont des humains. Ils ratent, donc, c'est ce que dit Renan, ils ratent la part héroïque d'un dieu unique qui est un dieu moral, qui ne peut vouloir que le bien. Ça, les Grecs n'en ont pas conscience. Mais ça leur permet de dessiner de tracer de manière très claire la part des dieux, la part des hommes. Et dans la part des hommes, seul l'homme, ses intérêts, ses passions, ses besoins parlent, même s'ils font semblant de croire que les dieux s'en mêlent. Mais en fait, c'est une affaire d'homme. Et je pense que ce n'est que dans un contexte pareil, psychologique pareil, qu'on pouvait inventer la démocratie.
Vous rabaissiez, vous avez très bien compris l'article de Paul Venn, arrêtez, c'était une coquetterie. J'ai ce sentiment, en tout cas. Bien, avançons, si vous le voulez bien, vers ce que Rome a pu nous léguer. Et pour cela, une autre archive très différemment datée. Vous allez entendre ce qu'est son grain, comme dit notre cher réalisateur. Le grain, c'est-à-dire le son particulier qui est celui de 1955.
Le grain,
c'est un extrait, oui, c'est un extrait. Le grain sans la paille. C'est un extrait d'un propos de Jacques de Lacretel. Vous vous rappelez Jacques de Lacretel, académicien, grand personnage de la NRF, chroniqueur au Figaro. C'était le temps des grandes conférences et voilà comment il évoque, donc le 4 juillet 1955, l'héritage de la Grèce et de Rome.
Excellences, mesdames, messieurs, en me demandant de prendre la parole pour définir le rôle de la culture latine dans la construction de l'Europe, vous m'avez donné une lourde tâche, mais je ne la récuse pas, car cette tâche est belle et elle éveille en moi des idées que j'ai à cœur de défendre. Athènes, c'est l'étincelle d'enthousiasme qui nous entraîne à raisonner sur tout. C'est notre esprit d'analyse qui, parfois devenant trop subtil, ne nous montre plus que des poussières d'idées. Athènes a engendré Byzance. Rome, la Rome antique, c'est le besoin d'appartenir à une nation organisée et l'acceptation de ses lois. C'est, si vous voulez, la part civique de notre conscience. Il y avait des peuples grecs, il y eut des citoyens romains. Et nos institutions, comme nos sentiments politiques, ont grandi à l'ombre de cet héritage. Dans notre Occident, tout homme qui se veut intelligent pense à Athènes, tout peuple qui se veut grand regarde vers Rome. Le christianisme a touché en nous une autre fibre et comblé d'autres aspirations. Son enseignement a voulu prouver que la vie spirituelle peut et doit dominer nos actes puisqu'elle ne meurt pas avec eux. À la primauté de l'intelligence, à la responsabilité du citoyen, il a ajouté la notion d'un idéal égalitaire que nous pouvons atteindre selon nos mérites intimes. Voilà les trois grands foyers qui sont en nous et dont la flamme brûle encore avec une intensité variable.
Je vous remercie, Élie Barnavi, à votre tour. Un demi-siècle après Jacques de Lacretelle, d'avoir assumé cette lourde tâche sans la récuser. Vous avez été dans les minutes précédentes intelligent, puisque vous avez parlé de la Grèce. Je vous demande maintenant d'être grand, puisque nous allons parler de Rome.
C'est curieux, mais la Crétaine me paraît plus vieux que Platon. C'est extraordinaire.
Je n'ai pas d'archives de Platon à vous donner, je regrette infiniment.
Ce n'est pas faux ce qu'il dit, mais c'est dit de telle manière qu'on a presque honte d'être d'accord avec lui. C'est vrai que ce que Rome ajoute, c'est le droit, c'est la loi, c'est la notion de citoyen. Et en fait, les Romains qui n'inventent pas grand-chose, n'est-ce pas, ce sont des formidables bâtisseurs, ingénieurs, organisateurs.
Juristes.
Mais, des juristes, mais en fait c'est le grand mérite, c'est de porter la parole grecque et l'esprit grec aux dimensions du monde connu. C'est ça qu'ils font.
Vous pensez aux États-Unis d'Amérique par rapport à l'Europe aujourd'hui pour faire une concordance d'État?
Non, au risque de nous déplaire, les États-Unis y ajoutent l'esprit grec aussi. Beaucoup de choses s'inventent là-bas, justement. Ils ont quand tout de même les meilleures universités.
Tant pis pour la concordance des temps. Je me risquais, mais je ne l'acceptais pas.
Mais c'est vrai.
On va faire une autre émission.
Alors, tout ce monde ensemble, puisque le monde gréco-romain est un, c'est lui qui va façonner ensuite l'Europe telle que nous la connaissons. Et cet héritage est considérable. Et donc, vous faites allusion, je suppose, à la sortie de ce qu'on appelait autrefois la longue nuit du Moyen-Âge. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien, que le Moyen-Âge a été lui aussi travaillé par les souvenirs de la Grèce et de Rome. Mais ensuite, il y a une espèce d'explosion, il y a une espèce de tentative d'appropriation, n'est-ce pas, de cet héritage. Pas de manière servile, d'ailleurs. Les humanistes, on les appelait ainsi, n'est-ce pas, à partir du 14e, du 15e siècle. Ces humanistes, pourquoi s'appellent-ils ainsi? Non seulement parce que rien de ce qui est humain ne leur est étranger, n'est-ce pas? Ce n'est pas une appréciation morale.
Ni l'humanum, alienum plutôt, c'est ça? Vous alliez le dire en latin, mais votre timidité vous en a empêché.
J'essaie d'être un peu moins cuistre que M. de la Crotelle.
Merci pour moi. ça, je vous le revaudrai.
Mais où en étais-je? Oui. Et donc ces humanistes sont humanistes parce qu'ils prennent cet héritage grec et romain, d'abord romain, ensuite grec, et ils approchent, ils abordent les problèmes de leur monde avec les outils intellectuels du monde ancien. Ils se servent donc des qualités qu'ils apprennent dans le monde ancien, de curiosité intellectuelle, d'esprit critique, d'indépendance, de liberté d'esprit, pour aborder les problèmes de leur propre monde, y compris, bien entendu, le problème de la foi, y compris le christianisme.
Bien sûr.
On a cette formidable tradition de l'humanisme chrétien. La France a été l'un des foyers les plus impressionnants de cette floraison extraordinaire d'humanisme chrétien.
Nous allons y venir, mais peut-être faut-il aussi citer, de ce fait, parmi les sources de notre civilisation chrétienne, d'une part le judaïsme et d'autre part l'islam. Et nous arrivons à cette grande querelle qui a été réveillée récemment par un livre de Sylvain Guggenheim, la question de savoir quel est le rôle de l'islam comme passeur entre l'antiquité gréco-latine et nous. Vous savez que ce livre affirmait qu'on avait exagéré ce rôle et que le Mont Saint-Michel en particulier avait été essentiel à cet égard.
Oui,
comment avez-vous réagi à cette querelle? Elle vous a paru bienvenue, naturelle, absurde?
Naturelle en France. Vous avez le talent de vous enflammer pour des querelles qui sont... qui n'ont à mes yeux aucun sens.
C'est quand même plus intéressant de s'enflammer pour le Tour de France quand même. Non,
je n'en suis pas entièrement certain. Je veux dire, nier la part de l'islam, de la situation islamique dans la passation de savoir ancienne est tout simplement stupide. Il suffit de lire ce que disent eux-mêmes les penseurs de l'époque qui nous intéresse ici, de la Renaissance.
Le rôle de Averroès, par exemple, qu'il faut rappeler.
De Averroès, de Avicenne. des gens qui ont été bien davantage utilisés en Occident, d'ailleurs, et c'est le malheur de l'islam, que dans le monde islamique. C'est l'université médiévale qui s'est emparée de ces gens et qui en a fait ce qu'elle en a fait, à tel point qu'on se demande si un Thomas d'Aquin aurait été possible sans cet apport-là. Donc ça ne sert à rien de nier cela, et je ne vois pas au nom de quoi on le nierait. Alors on a beau dire, oui, mais ce n'était pas des musulmans, c'était plutôt des arabes chrétiens. Bon, c'est ce qu'il dit. Enfin, tout cela me semble assez dérisoire. Et en même temps, il n'y a jamais eu interruption de la tradition grecque en Occident, même indépendamment de la part de l'islam, c'est évident. Et il y a eu des foyers très actifs de transmission de ce savoir antique.
On n'a pas attendu le livre de Guggenheim pour le savoir.
Exactement.
Et pour le dire.
Donc, il y a une manière d'enfoncer des portes ouvertes qui est, et ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est qu'on écrive des pétitions. N'est-ce pas? Comme si le fait de faire signer des gens sur une pétition, ça allait imposer je ne sais quelle vérité historique. Et c'est vrai qu'après, on en ajoute une louche et on fait une loi, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Et comme ça, on est blindé, la liberté historique se portera très bien.
Tout à l'heure, dans la Halle aux Grains, vous avez brillé hier, Élie Barnavi, l'association Liberté pour l'Histoire, vous me donnez l'occasion de l'évoquer. Présidé par Pierre Nora, après René Raymond, posera précisément cette question des lois mémorielles. Alors, je ne sais pas si c'est dans la prolongation de cette controverse que nous sommes menacés par des lois où on nous dit, en somme, il faut décider ceci, il faut chercher cela dans le passé, ce qui nous heurte comme historiens et comme citoyens. Mais en tout cas, à partir du moment où vous pourfendez cet auteur et regrettez cette querelle, vous placez, nonnas volens, ah tiens, j'ai encore parlé latin, vous allez dire que je suis cuisse, mais tant pis, de gré ou de force, plutôt de gré, j'imagine, dans la cohorte des historiens préoccupés par cela.
J'ai signé toutes les pétitions de Liberté pour l'Histoire et je pense effectivement que c'est une très très mauvaise habitude et qu'il faut cesser de mélanger le Parlement et l'histoire, le prétoire et l'histoire. Les querelles d'historiens n'ont rien à voir de cela. Et je pense d'ailleurs que la vérité d'histoire existe. Hein. Je ne suis pas un postmoderniste. Je ne pense pas qu'on puisse dire n'importe quoi. Je pense que la vérité existe, que nos tentatives d'y parvenir sont pathétiques, sont asymptotiques. Nous n'y arriverons jamais, mais elle est là, n'est-ce pas? Le diamant dur de la vérité existe et nous devons nous essayer de l'aborder. Mais cette vérité-là n'est pas du domaine de la loi, mais du travail patient de l'historien.
Je m'étais dit que je m'arrangerais pour glisser ce petit excursus dans notre conversation. C'est fait. Et maintenant, de Pierre Nora, je passe à Joachim Dubellay.
Ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison. Je fumais la cheminée et en quelle saison. Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison. Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus près que le mont Pala, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers, à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale, et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas, et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je?
J'ai choisi Élie Barnaby, cette interprétation par Ridane du fameux poème de Dubellay, Heureux qui comme Ulysse. J'avais aussi à disposition des interprétations par les sociétaires de la Comédie française dans les années 50, mais ça m'a paru plus moderne, n'est-ce pas ? Il faut de temps en temps jouer la modernité. Quelle réflexion vous inspire ce poème qui en fait est marqué par le mal du pays, le sentiment de l'exil, plus mon petit liré que le Mont Palatin, mais néanmoins il y a une fascination pour le Mont Palatin.
Oui, alors la nostalgie est universelle de tout temps, de toute culture.
La Belgique vous manque actuellement ici ?
Horriblement. Mais je la retrouverai demain, vous inquiétez pas. Mais ce qui me frappe, moi, surtout, c'est c'est quelque chose que nous avons perdu, c'est la familiarité de ces hommes avec le monde ancien. Ils ne considèrent pas du tout les Grecs et les Romains comme nous les considérons. Ils les considèrent comme des contemporains. Ils en parlent, ils écrivent sur eux comme s'ils étaient leurs contemporains. Il y a une lettre de Machiavel à Vettori, son ami, une lettre célèbre où il raconte la manière dont il vit. Il vit son exil. Pendant la journée, il traîne dans des auberges. Il fréquente toutes sortes de gens, parfois très, très, très peu fréquentables. Et le soir, il rentre chez lui. Il met ses plus beaux atours. Et il rentre donc. Il commence le commerce avec ses vrais amis, avec ses vrais interlocuteurs qui sont les auteurs anciens. Et là, on s'aperçoit qu'il vit ce monde ancien comme la seule chose à laquelle le seul parallèle que je puisse faire, c'est avec la manière dont nous vivons la Bible en Israël, où il y a des discussions à certaines fêtes nationales qui sont tirés de la Bible comme si les rois d'Israël étaient des contemporains. Et on s'affronte pour savoir est-ce qu'il fallait faire la révolte contre Rome, est-ce qu'il ne fallait pas, avec des leçons tout à fait actuelles sur la politique d'aujourd'hui.
Masada ou pas Masada.
Masada ou pas Masada. Ce qui est tout de même... Et en Occident, évidemment, tout cela a disparu, mais à l'époque de la Renaissance, c'est le type de commerce que ces gens ont avec Grèce et Rome.
Vous ironisiez tout à l'heure sur les querelles françaises sur le passé. Vous en avez autant pour moi. Je peux dire 15 partout ?
Si vous acceptez de m'inviter, je pourrais vous parler de ce qui se passe chez moi. C'est tout à fait instructif de ce point de vue-là.
Nous en avions parlé autrefois dans une ancienne émission.
Le passé, la relation au passé est tout à fait passionnante, effectivement.
Vous avez raison de citer Machiavel. C'est en 1512, il dit « Le soir venu, je m'en retourne dans ma maison et j'entre dans ma librairie. Je dépose sur le seuil mes vêtements boueux de tous les jours. Je m'habille comme pour paraître dans les cours et devant les rois. Vêtu comme il convient, j'entre dans les cours antiques. » Des hommes d'autrefois, ils me reçoivent avec amitié auprès d'eux. Je me nourris de l'aliment qui seul est le mien et pour lequel je suis né.
Eh bien, c'est la lettre à Vettori. Je ne savais pas que vous l'aviez dans vos papiers. C'est parfait.
Oui, je m'efforce d'illustrer vos propos en les laissant plus de concret.
C'est exactement ça. Et donc, on comprend mieux, du coup, la manière dont ils se servent de cet héritage, puisque nous parlons de l'humanisme, la manière dont ils s'emparent, ils se l'approprient. Et j'insiste là-dessus, sans être servile, n'est-ce pas, sans se soumettre à cet héritage, mais en s'en servant pour un monde qu'ils comprennent être un monde nouveau. Et j'en profite pour rappeler que la distinction largement factice à nos yeux aujourd'hui entre époque, entre Moyen-Âge et le temps moderne remonte à cette époque-là. Ce sont eux qui font ces distinctions. Ce sont eux qui disent nous sortons d'une époque de noirceur et de barbarie et nous entrons dans la civilisation. Ça, c'est une distinction des hommes de la Renaissance.
Oui, ils n'ont pas vécu, effectivement. Quelqu'un ne s'est pas réveillé un jour avec la prise de Constantinople en disant tiens, on quitte le Moyen-Âge et on entre dans les temps modernes. C'est ça que vous nous dites. Vous luttez contre l'anachronisme.
Mais un peu si. Il n'est pas à l'occasion de cet événement précis. Mais ils disent, vous lisez Vasari, vous lisez d'autres auteurs de cette époque-là, ils disent si, nous sortons maintenant. Il y a un texte merveilleux de Boccace où il dit exactement cela. Où il dit, voilà, nous sortons maintenant d'une longue période de barbarie. Et nous entrons dans la civilisation.
Et en sortir, c'est précisément aller s'abreuver aux sources gréco-latines.
Exactement.
Et c'est le sujet de cette conversation, Élie Barnaby. C'est pourquoi l'antiquité grecque et romaine vient s'installer avec autant de force à côté de l'héritage chrétien. D'ailleurs, Rabelais, qui est un très bon sismographe des sensibilités de son époque, dans Gargantua, on voit le Gargantua qui, en 1532, écrit à son fils Pantagruel, « Dans ma jeunesse, c'est Gargantua qui parle, le temps était encore ténébreux et sentant l'infélicité et calamité des Goths qui avaient mis à destruction toute bonne littérature. Mais par la bonté divine, c'est Dieu qui est là, mais qui conduit vers la Grèce et Rome, la lumière et la dignité a été de mon âge rendue aux lettres. Maintenant, toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées, grecques, sans laquelle c'est honte que personne se dit savant. Hébraïque, chaldaïque, latine, les impressions tant élégantes et correctes à utiliser qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine. » Fin de citation.
Et non, et puis vous pourrez continuer à vous dire...
Je vous en prie, récitez.
Combien heureux es-tu, donc il parle à son fils, de vivre dans ces temps où tu peux t'abreuver maintenant.
C'est ça, Gargantua, c'est le temps sombre d'avant, et Pantagruel, c'est la lumière de l'antiquité grecque et latine.
Nouveau. Donc ce n'est pas si anachronique que ça, c'est-à-dire ces distinctions, ce sont eux qui la font. Alors, il y a là un trésor dont ils demandent quand se servir. Alors ce trésor, qu'est-ce qu'il leur offre? Il leur offre donc une sagesse, un savoir, une façon de penser et surtout peut-être une manière d'être libre. Une manière d'être libre. Et ça me paraît extrêmement important. Et lorsque l'on lit ce que ces gens-là écrivent, on est parfois frappé de la liberté de ton. Ils disent ce qui leur passe par la tête. Vous lisez un texte comme celui de la donation de Constantin de Laurent Valla, n'est-ce pas ? Valla qui est au service du pape. Et qui dit la donation de Constantin, vous savez, c'était cette légende selon laquelle l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien, aurait fait don au premier pape de la moitié de l'Occident. Et ça, ça aurait été la source, l'origine du pouvoir des papes, du pouvoir temporel des papes. Il dit, mais pas du tout ça n'a aucun sens. C'était un mensonge pour spolier les empereurs avec une violence et avec un culot dont on n'aurait pas idée aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parlerait pas au pape de cette manière. Donc, alors,
nous l'avons constaté d'ailleurs lors de sa visite récente.
Oui. Et donc, c'est pour eux, ils s'accrochent aussi à cet héritage pour être véritablement libres. Et un anticléricalisme débridé. Alors, anticléricalisme ne veut pas dire évidemment antichristianisme ni athéisme. Il y a un fameux livre de Lucien Febvre là-dessus d'ailleurs, à propos de Rabelais précisément.
La religion de Rabelais, pour montrer qu'il n'était pas même concevable, qu'il fût irreligieux.
C'est ce qu'il dit. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est très brillant.
C'est l'essentiel.
Oui. En tout cas, il est évident que la plupart sont chrétiens, ils sont croyants, mais ils ne veulent plus de... Ils ne veulent plus de mots d'ordre, ils veulent être libres. Et l'héritage gréco-romain le leur permet.
Sur cette liberté, je ne me prive pas du plaisir de vous faire entendre à nouveau le grand Jean-Pierre Vernant, qui insiste précisément sur ce point à propos de la Grèce et l'héritage que nous en avons reçu.
Les Grecs, tels que je les voyais, et tels encore que je les vois aujourd'hui, une de leurs caractéristiques, c'est cette extraordinaire audace intellectuelle. Qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de domaine aux yeux des Grecs qu'on ne puisse soumettre à une analyse d'ordre intellectuel, intelligente, une analyse critique. La liberté de l'esprit, le fait qu'il n'y a pas de dogme qui s'impose à vous et que s'il y en a, on ne doit pas en tenir compte. Qu'on peut parler des dieux comme on peut parler de l'homme, comme on peut parler de la nature, comme on peut parler de la sexualité, la montrer, que tout ça, c'est libre. Ça jouait pour moi. Ce qui me plaît pour un type comme moi qui avait été anticlérical dans sa jeunesse, qui pensait que la religion, les préjugés nationaux, tout ça, c'était à peu près du même ordre et que ça allait disparaître. ce côté, pas seulement chez les sophistes, dans l'ensemble de la société grecque, avec les exceptions peut-être des courants mystiques, mais qui sont marginaux, mais que la civilisation grecque dans son ensemble a cette espèce de regard, de volonté de comprendre, de rendre intelligible, de se dépouiller de toute espèce d'élan un peu passionnel. Alors ça me plaisait beaucoup.
Ça lui plaisait beaucoup. Liberté à tous égards, liberté notamment sexuelle et libre à vie. Donc dans ce cas-là, cette Europe frigide que vous évoquez dans votre livre, ce ne serait pas la faute des Grecs.
Liberté jusqu'à un certain point, liberté pas pour tout le monde, mais liberté oui, comme principe d'action, comme la qualité la plus précieuse d'un homme libre. Il faut insister là-dessus parce que tous les Grecs, ni tous les Athéniens, et souvent d'ailleurs lorsque nous disons Grèce, nous pensons Athènes, n'étaient pas des hommes, et tous n'étaient pas des hommes libres. Mais enfin, pour ce groupe-là...
Les femmes n'étaient pas des hommes libres.
Les femmes n'étaient pas des hommes libres. Et les esclaves n'étaient pas des hommes libres. Et à un sens, les métèques n'étaient pas non plus des hommes libres. Mais enfin, il y avait là l'idée que, pour ce groupe restreint, ils étaient citoyens. Et citoyen voulait dire être homme libre. Être homme libre voulait dire pouvoir dire ce que l'on veut. Alors vous me direz, il y a eu Socrate. Mais Socrate, tuer Socrate, c'était un acte de salubrité publique. C'était un effroyable emmerdeur. Imaginez que vous allez au marché et que quelqu'un vous attrape par le bouton et vous assène des discours infinis sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce que vous n'avez pas envie d'en finir.
Mais le remède était un peu radical tout de même.
C'est vrai, le remède était un peu radical, ça je vous l'accorde.
Si j'en reviens au début de notre conversation, c'est-à-dire la question des sources de l'Europe, essentiellement ou non chrétiennes, vous êtes en train de nous démontrer qu'elles sont certes chrétiennes, qui le nieraient, mais qu'en même temps elles sont aussi éminemment liées à la Grèce et à Rome antique. Il y a un homme qui a incarné cette rencontre magnifiquement au temps de l'humanisme, c'est Érasme.
Oui, alors Érasme.
Il faut lui rendre hommage ici.
Le prince des humanistes, n'est-ce pas ? L'homme qui a effectivement combiné en lui les deux traditions, profondément chrétien, dévot même, et en même temps d'une formidable liberté d'esprit, et qui parlait grec et latin, comme vous et moi, nos langues nationales.
Ah, je croyais que vous alliez dire que grec et latin, comme vous et moi.
Non, quand même pas.
J'allais vous féliciter, je regrette de ne pas en avoir l'occasion.
Qui était une célébrité dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Erasme, c'était le Voltaire de son époque, n'est-ce pas ? C'était un homme connu, célébré un peu partout. Il faisait partie de ce petit heureux 16e siècle, avant que tout sombre dans les guerres de religion et que l'époque devienne intolérante, sanguinaire, affreuse. Lui, il a symbolisé un moment de grâce, de liberté. Et je me souviens avoir écrit avec une amie, il y a quelques années, un livre sur un de ces humanistes hérétiques par définition, qui errait de ville en ville jusqu'à ce qu'il trouve enfin le bûcher dans sa ville natale, dans sa patrie natale, à Rome. Peu de temps avant, un autre supplicié, Giordano Bruni. L'époque n'est pas égale. Hein. Il y a une époque de liberté, d'humanisme triomphant, le 15e, le tout début du 16e siècle, et ensuite on a une espèce de chute épouvantable, de raidissement. Et là, je dirais à mes amis protestants quelque chose qui ne leur fait peut-être pas plaisir. C'est en grande partie à cause d'eux. C'est-à-dire que l'apparition de la réforme, des réformes, je devrais dire, a raidi l'Église. Et il a fait d'une Église plutôt tolérante, un peu corrompue. Enfin, très bien. Donc, il faut un peu d'esprit de jouissance et de corruption dans des corps doctrinaires, sinon ils deviennent épouvantables.
Alors bon, je vais recevoir des courriels.
Eh bien, le protestantisme, lui, a produit la contre-réforme, dont la bienséance veut qu'on ne parle que de réforme catholique, n'est-ce pas ? Mais il y a une dimension contre-réforme, et donc l'Église tridentine, la fixation du dogme et les bûchers.
C'est vrai qu'il y a eu du côté de la Rome des papes un intérêt antérieur marqué à l'Antiquité qui est tout à fait frappant.
Bien sûr.
Pie II, par exemple, Piccolomini, il mettait que Rome est spécuaire, senatus populusque romanus, est réapparu sur les, sur les enseignes.
Et grand européen d'ailleurs. Mais alors tous ces gens-là n'étaient pas des fanatiques. Ils étaient, c'était des hommes tout à fait cultivés, des humanistes. Et lorsque le défi, lorsque Luther, et ensuite Calvin, n'est-ce pas, et les autres leur imposent ce défi incroyable, n'est-ce pas, la première hérésie qui réussit, n'est-ce pas, c'est ça la réforme.
Oui, l'arianisme avait échoué.
Ah oui, l'arianisme, le marcionisme, les donatistes, toutes ces hérésies-là. Bon, l'Église a très bien su, les franciscains qui étaient, ne l'oublions pas, il y avait une dimension hérétique. Donc ça, l'Église a su, dans sa grande sagesse, en mélangeant la carotte et le bâton, a su digérer les autres hérésies. C'est là, impossible. Et donc il y a schisme. Il y a schisme, pas un schisme politique, comme avec les orthodoxes, mais un schisme, un vrai schisme.
Il y a tout de même déjà eu, le schisme du XIe siècle avec les orthodoxes, oui.
Mais c'était purement politique. Il n'y a rien de véritablement doctrinal. Là, il y a un véritable défi théologique. Et ça, cette partie-là, l'Église la perd, et donc elle se redit, elle devient anti-humaniste.
Donc vous nous dites que c'est la faute de Calvin et de Luther, pour dire les choses très brièvement, si l'Église a cessé de s'abreuver elle-même de la même façon aux sources de l'Antiquité.
On peut rêver de ce qu'aurait pu être une Église laissée à elle-même sans le défi luthérien qui aurait continué à être ce qu'elle était à ce moment-là, une Église humaniste, plutôt tolérante, où on pouvait dire à peu près ce que l'on voulait.
Ce qu'elle était devenue, parce qu'au Moyen-Âge, c'est tout de même pas une mère de tolérance.
Vous savez,
ça dépend des moments.
C'est que l'Église retient de l'enseignement grec, c'est que dans les universités médiévales, la parole est entièrement libre. Entièrement libre. C'est même le meilleur de la tradition universitaire que nous avons traîné jusqu'à nous. L'université qui est la seule invention complète, totale, au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? L'université n'existe pas dans les temps anciens. Or, la parole, pour les initiés, évidemment, dans les murs de l'Église, est entièrement libre.
Comme à France Culture.
Oui, comme à France Culture, absolument.
Alors, c'est le triomphe de la philologie, évidemment, des gens comme Guillaume Budet. Mais avant, puisque nous sommes dans le Val-de-Loire, je trouve qu'après avoir entendu Joachim du Bellay, il convient d'entendre Ronsard.
Madame Simone vous présente maintenant son anthologie de la poésie française. Une émission de France Culture, mise en onde par Georges Godbert.
Aujourd'hui, Madame Simone a choisi des poèmes de Ronsard, de Louise Labbé et de Joachim du Bellay.
Nous voilà maintenant dans les merveilleux poètes de la Pléiade. Je dois dire que j'aime cette poésie par-dessus tout au monde, parce que non seulement elle est belle, mais elle est faite avec des mots si neufs, si frais. On a l'impression d'une chose naissante, d'une chose vraiment d'une jeunesse extraordinaire. Alors, Ronsard, entre tous, est beau, et c'est lui que je vais vous lire en premier. Je vais lire en 3 jours l'Iliade d'Homère. Et pour ce, Coridon, ferme bien lui sur moi. Si rien ne vient troubler, je t'assure, ma foi, tu sentiras bien pesante et ma colère. Je veux seulement que notre chambrière vienne faire mon lit, ton compagnon et toi. Je veux 3 jours entiers demeurer à recoin pour folâtrer après une semaine entière. Mais si quelqu'un venait de la part de Cassandre, ouvre-lui tôt la porte et ne le fais attendre. Soudain entre en ma chambre et me vient accoustrer. Je veux tant seulement à lui seul me montrer. Au reste, si un dieu venait pour moi descendre, du ciel ferme la porte et ne le laisse entrer.
En somme, Elie Barnaby, concurrence Madame entre Homère, Simone, Homère et Cassandre, c'est-à-dire l'antiquité gréco-latine et le principe de plaisir ou de bonheur.
Oui, c'est tout à fait ça. Si vous lisez les poètes de la Pléiade, il y en a de cette époque en général. Ils ne sont pas tous des Ronsard, il y en a des tout petits.
Mais vous connaissez Marc de Papillon de la Frise, il est merveilleux. Je le signale à mes auditeurs.
Voilà.
Car l'amour se fait mieux en langage enfantin, je me rappelle ce vers. Mais enfin, ça nous écarte.
Eh bien, si vous n'avez pas des notions assez précises de grec et de latin, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Leur poésie, leurs textes sont truffés de grec et de latin. Ça fait partie de leur fond culturel. Et ça a été vrai en Europe jusqu'à pas longtemps. Jusqu'à pas longtemps, dans les classes de rhétorique, enfin de terminale. C'est tout enfant qui terminait le lycée ou en Europe, il savait ces choses-là. Il pouvait lire en latin, peut-être moins en grec, mais quand même dans les bonnes classes aussi en grec. Et cette tradition-là s'est brusquement tarie.
Le chef de l'État nous a dit qu'il n'aimait pas la princesse de Clèves. Il ne nous a pas dit qu'il n'aimait pas les poètes de la Pléiade.
Ah, je ne sais pas ce que le chef de l'État lit dans l'intimité. Mais je le soupçonne de ne pas lire tous ces poètes-là dans l'original.
Alors. C'est un conseil qu'on peut leur donner. Nous allons malheureusement aborder à la fin de notre conversation. En somme, je trouve que dans votre propos, je m'en félicite, vous êtes en légère discordance avec votre introduction, avec votre propos. Vous avez probablement protesté. Vous dites on a tort d'affirmer que les sources ne sont pas chrétiennes. Encore une fois, le débat n'est pas celui-là. La question est de savoir s'il y a ou non concomitance avec d'autres sources aussi importantes.
Oui, je pense que le passé, contrairement à la Révolution française, selon Clémenceau, est un bloc. Et que ce passé...
Clémenceau disait que c'était un bloc, précisément.
La Révolution française. Oui, c'est ça. Je pense que le passé est un bloc. Il faut le considérer tout entier, le prendre avec ses ombres et ses lumières. Ne jamais hésiter à se confronter au passé, qu'il soit agréable ou désagréable. Et je trouve que dans ce débat sur la racine chrétienne d'Europe, on manque cette dimension-là. Et on choisit, on picore, on prend ce qui nous convient, on laisse le reste. Eh bien non, il faut tout prendre. Il faut prendre le christianisme, il faut prendre les sources grecques et latines, il faut prendre Auschwitz, ça fait partie aussi de notre passé. Il faut prendre le colonialisme et la décolonisation.
Ce que l'islam nous a apporté.
Il faut prendre ce que l'islam a apporté. Il faut accepter de regarder tout le passé en face. Et dans le rapport au passé, ou dans le défaut de rapport au passé, ou dans le rapport maladif au passé, je pense que se trouve l'essentiel du problème de l'identité européenne aujourd'hui.
Eh bien, voilà une belle conclusion qui nous permet de penser que les sources, de confirmer que les sources de l'Europe, à quoi nous nous abreuvons, en somme, puisque vous préférez l'expression de source à celle de racine, hein, les sources auxquelles nous nous abreuvons sont diverses et que c'est notre richesse. Par conséquent, il ne faut pas promouvoir les unes par rapport aux autres. Merci beaucoup, Élie Barnavi. Votre livre s'appelle, je crois qu'on l'a bien compris, « L'Europe frigide, réflexion sur un projet inachevé », édité par André Versailles, l'excellent éditeur qui, après avoir fondé Complexe, se relance une maison ambitieuse et énergique. Ça vient de paraître en 2008. Je signale aussi un autre ouvrage qui est le vôtre, que vous avez rédigé avec Christophe Pomian, et qui s'appelle « La Révolution européenne, 1945-2007 ». Quel est le propos de ce livre ?
C'est montrer la construction européenne comme révolution, comme quelque chose d'absolument inouï au sens fort du terme dans les annales des nations.
C'est-à-dire qu'en fait, on voit l'Europe inventer un troisième mode d'organisation. Il y en a eu deux dans l'histoire. Il y a eu la domination d'un chef, c'était ce que disait Dante dans « Des monarchias ». Ça a été Napoléon, ça a été Charlemagne, l'espoir du Saint-Empire romain-germanique. Puis ensuite, il y a eu l'Europe de Metternich, c'est-à-dire l'idée
l'équilibre,
d'un ensemble.
L'équilibre des puissances.
Si cher à Kissinger.
Oui. Et l'Europe invente, l'Europe nouvelle invente l'Empire démocratique sans empereur. C'est tout de même extraordinaire.
Sans précédent, c'est un objet politique non identifié.
Absolument. D'où ces difficultés.
Est-ce que ça peut renvoyer quand même aux amphictyonies grecques? Parce que je cherche, vous savez, désespérément des concordances. Non, pas désespérément, je pense, avec beaucoup d'attention et de détermination.
La Ligue athénienne était une affaire coloniale, hein, c'était une affaire impériale. L'Europe ne se veut pas comme ça. Mais je reviendrai parler de l'Europe dès que vous me sifflerez.
Je ne manquerai pas de vous siffler, Élie Barnavi, avec tout le respect qu'on doit à votre science et à votre situation sociale. Les collections de l'histoire, la revue L'Histoire, notre chère revue L'Histoire, vient de publier « Les Européens d'Hérodote à Erasmus », c'est le numéro 41 en octobre 2008, un numéro précieux auquel je renvoie nos auditeurs.